Et quand je vois bien ce lit, après avoir découvert le Japon samedi, ça, c'était la principauté de Savour ou la principauté de Séborgia. Comment est-ce qu'on l'appelle, la principauté?
Principauté de Savour.
De Savour.
En fait, ça, c'est le nom originel qui a été constitué en l'année 1261 par les moines de Lorraine qui ont pu créer cette principauté à Savour, dans le prieuré du Savour, car l'île de Lorraine était sur le Sacro-Romain Empire, donc on ne pouvait pas donner l'autorité d'un impérateur à un autre impérateur de faire ce qu'on veut en fait dans son territoire.
On est d'accord que les îles de Lorrain sont en face de Cannes.
Bien sûr.
Et pourtant on est ici en Italie.
Et parce que en fait le territoire de la principauté du Savour, qui consistait en 110 km² de terrain, avait été donné au moins de Lorraine par le comte Guidon de Ventimiglia. Guidon Lascaris, en l'année 954 après Jésus-Christ. Donc ça date il y a longtemps.
D'accord.
Et le pape Alexandre IV, en l'année 1259, a pu faire une boule qui donnait des pouvoirs, de grands pouvoirs en fait, d'autonomie à l'abbaye de Lorraine.
C'est beau, c'était quoi? C'est une place forte?
En fait, c'est une ville fortifiée et le nom originel, c'est Castrum Sepulcri. Donc, château du sepulcre. Ce qui est un peu spécial, c'est qu'on n'a jamais trouvé une personnalité qui avait été enterrée dans ce territoire, dans le château du sepulcre. Donc, on pense beaucoup à une relique très importante, qui a attiré même l'attention des chevaliers du temple. Et c'est pour cela qu'il y a eu tout un ensemble de mythes qui ont porté les chevaliers du Temple à la principauté du Savour et qui exercent encore aujourd'hui, comme on l'a vu dans la célébration officielle.
Si j'ai bien compris la visite qu'on a eue ce matin, c'est qu'en fait, c'est les premiers chevaliers du Temple ont été, les premiers Templiers, ont été, entre guillemets, sacrés hein, au niveau de Savour.
Oui, en fait, c'est un mythe. On n'a pas de preuves exactes. Il y a des fortifications templières. Donc, on pense bien que les Templiers sont retournés à Savour, très probablement, pour rechercher cette importante relique qui avait été enterrée à l'époque. Il y a un mythe aussi qui parle de Marie-Madeleine, qui n'est pas arrivée directement à côté de Marseille, mais qui, à cause d'une grande tempête, donc d'une marée très compliquée à naviguer, elle est atterrée au port de Gênes. Et du port de Gênes, elle a pu faire la voie du Sahel et très probablement a déposé le Graal. Alors ça, c'est un autre grand mystère, mais à la principauté du Savour, ça prouverait le fait que, selon certaines études, le Graal, c'était le petit suaire du Christ. Vous savez que la Véronique, comme on l'appelle dans le domaine chrétien, mais que plus connue dans le monde orthodoxe, c'est la troisième Marie. En fait, il y avait trois Maries, la maman de Jésus-Christ et deux tantes. C'est elle que quand Jésus-Christ tombe avec la croix, en fait, avec le grand poteau, cette Marie le conforte avec un petit voile sur son visage.
On a juste oublié un truc. Qui es-tu, toi? C'est la base, j'ai oublié.
Je suis Monseigneur Jean-Luc de Lucia, nommé du Savour, donc prince abbé archevêque du Savour.
On ne dit pas Jean-Luc, logiquement.
Oui, bien sûr.
On dit comment? Giancarlo.
Oui. Gianluca, en italien.
Gianluca, pardon.
Gianluca, en italien, oui, parce que je suis italien, passionné d'histoire, président de la Polish National Catholic Church à Monaco, qui est une église vétéro-catholique et qui m'a donné l'opportunité de continuer mes études historiques et juridiques sur la principauté du Savour. Et donc, les études, après, sont devenues une mise au travail officiel.
En pratique.
En pratique, oui. Donc, on a reconstitué cette principauté.
C'est assez original parce que il y a une principauté juste à côté, pas très connue, qui s'appelle juste Monaco. Mais celle-là, celle du Savour, on la connaît moins.
Et oui, elle n'est pas connue en fait, parce que l'histoire récente veut qu'on connaisse cette principauté comme principauté de Séborgia. Mais la principauté de Seborg, c'est l'invention, c'est le fruit d'invention d'un monsieur très intelligent qui avait fait des études historiques et qui était un passionné aussi du domaine du Sambour, en fait, du Castrum Sepulcri. Et qu'il a décidé de rendre beaucoup plus petit le territoire de la principauté du Sabour au village de Seborg. C'est pour ça qu'il est devenu principauté de Seborg.
Oui, parce que logiquement, la principauté, elle descend jusqu'à Sospel, carrément à la frontière monégasque.
Oui, en fait, elle était constituée par deux territoires, le prieuré du Sabour, d'environ 10 km², dans l'actuel village de Seborga, qui fait 4 km², plus des villages voisins, donc Vallebona, Ospedaletti, Perinaldo et Saint-Rémy, juste une petite partie. Et le prieuré de l'aumônerie de Saint-Michel à Ventimiglia, où les statues ont été véritablement créées en l'année 1261, qui demeure de l'église de Saint-Michel à Ventimiglia, actuellement gardée depuis, je dirais, de nombreuses années par l'évêché de Ventimiglia Saint-Rémy, qui demeurait donc de cette église jusqu'à Sospel, avec la Ouaïa d'un côté droit comme frontière, et côté gauche, donc la mer Méditerranée, et en montant vers les montagnes qui portent à Sospel, pour environ 100 km².
Ce qui m'a fait sourire ce matin aussi, c'est que j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit « Tu sais, il y a que 300 habitants à Sabour. »
C'est la vérité, le village de Seborg, aujourd'hui, c'est minuscule et c'est pour...
Une principauté de 300 habitants.
Et c'est pour ça que... Non, mais la principauté est beaucoup plus grande. Giorgio Carbone a été très intelligent, il a décidé donc de restreindre le territoire de la principauté au village de Seborga, comme ça pour lui c'était plus simple, se faire accepter par les villageois, par les gens qui habitent là-bas. 300 habitants, c'est facile à convaincre que c'est une opportunité touristique de remettre en place cette principauté. Mais les démarches qui nous ont engagés dans la reconstitution de la principauté du Sabour sont complètement différentes. Sont de remettre en place le premier état monastique de l'humanité. Aujourd'hui, nous avons une république monastique, la république du Mont Athos, qui se trouve en Grèce. Nous n'avons pas la même prétention de pouvoir être égaux à la république du Mont Athos, mais on a quand même l'ambition de retrouver des personnes dignes de foi qui veulent reconstituer, qui veulent prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, aujourd'hui, on a célébré donc à travers la Pâque. La Pâque pour nous orthodoxes, parce que on n'a pas dit que de vétro catholique je suis devenu orthodoxe, donc j'ai eu le grand honneur d'être consacré évêque en l'année 2022, car j'avais une licence en théologie et ça m'a porté donc à m'engager beaucoup plus dans le domaine religieux. Et actuellement, je suis vicaire général de l'Église orthodoxe en Italie, qui est la seule Église orthodoxe totalement italienne, mais nous avons aussi des diocèses en France, en Afrique, donc on essaie d'avancer.
Il y a un petit truc assez original avec Jean-Paul II,
qui fait que... En fait, il faut qu'on remercie le saint, parce que Jean-Paul II a voulu une communion partielle avec la Polish National Catholic Church, donc l'Église polonaise nationale catholique, et cette opportunité fait en sorte que nous pouvons revendiquer le titre pour le Vatican. Parce que selon mes études et les études de mes collaborateurs, le Vatican a perdu le droit sur la principauté du Sabour à l'année 1929, à la signature du pacte du Latran. Il faut une petite précision, la principauté du Sabour avait été vendue par les moines de Lérins, car il y avait à ce moment-là, en 1729, et les problèmes étaient commencés bien avant, des problèmes de gestion de la principauté du Sabour, parce qu'il y avait quand même un grand territoire, et de l'île de Lérins. Et donc le pape avait préservé l'île de Lérins en tant un endroit au niveau théologique et religieux très important, parce qu'il y a quand même des saints qui ont été chargés de cette tâche par le Vatican, par le pape, et donc on a décidé de sacrifier la principauté du Sabour. Mais cette vente, malheureusement, n'a pas abouti comme c'était prévu. Et donc le territoire est devenu un protectorat savoyard. Donc le roi de Sardaigne, qui ensuite est devenu roi d'Italie, était protecteur du territoire. Et grâce à cette optique juridique, nous sommes en train de définir une procédure juridique avec le gouvernement italien pour faire comprendre qu'on ne veut plus de territoire, parce qu'on n'a pas la prétention de redessiner la charte européenne. Ça serait un peu trop ambitieux, probablement, difficile à accomplir, mais nous avons la volonté de trouver un arrangement pour redynamiser ce territoire avec une autonomie spéciale. ce qui est prévu par l'article 5 de la Constitution.
Ah oui, attention, c'est du sérieux, hein. C'est pas une blague. Hein. Attention. Hein. La principauté est d'avant-garde. Elle est carrément 3.0. Aujourd'hui, elle est digitale.
En fait, on a voulu se conformer parce que, comme tout la planète veut se digitaliser, et tous les États sont en train de rentrer dans cette optique, on a eu la chance d'avoir un collaborateur qui est un ingénieur informatique qui connaît très bien la matière digitale et il nous a donc aidé à digitaliser la principauté. Donc en fait, depuis aujourd'hui officiellement, existe le ESBR, qui est un token, qui est donné aux citoyens pour digitaliser leur titularité, leur nationalité. Et on donne l'opportunité à tous les citoyens du monde entier qui veulent soutenir le projet de la principauté du Sabour de devenir résident digital. Et à tous ceux qui resteront avec nous, avec une cotisation un peu plus importante, une donation. Parce qu'en fait, on parle d'une fondation numérique. On pourra donner l'opportunité de devenir citoyen, un citoyen, donc un citoyen numérique ou digital. Voilà.
Avec carnet d'identité, passeport et tout ce qui va avec.
Mais justement, la carte d'identité est donnée aux citoyens, le passeport aussi, mais on pourra l'utiliser dans les pays qui sont en train de nous reconnaître. À l'heure actuelle, nous avons des négociations en cours officielles avec plus de 5 pays de la communauté internationale. Et ce n'est pas simple car nous avons le contentieux ouvert avec la République italienne et beaucoup de pays veulent savoir quelle est la pensée de la République italienne. Pour l'instant, on n'a pas ouvert encore le contentieux avec la République française parce qu'il faut savoir que la ville de Sospel, elle fait partie aussi de la principauté du Sabour. J'ai essayé d'interpeller monsieur le maire, j'espère de rencontrer prochainement, mais peut-être ça portera une envergure intéressante au niveau économique parce que si les États voient que nous ne sommes pas un problème et que nous pouvons être peut-être une solution à plusieurs problèmes de crise économique qui surtout touchent notre région, parce que à part le tourisme, la Côte d'Azur, elle ne vit pas dans un ensemble, dans un contexte dynamique, industriel, ou financièrement important, à part les touristes ou les milliardaires qui investissent sur la côte. Donc il ne faut pas mélanger les gens qui habitent, les citoyens, les sujets qui sont là, plutôt que les gens qui viennent investir.
On a oublié d'identifier au niveau géographique la principauté. On est au-dessus de 20 000, on peut dire ?
Oui, on est à 20 000 pour une bonne partie. Donc les deux prieurés, on a la prieuré du Sabour qui est le village de Seborga, comme on a dit, et une partie des territoires des villages voisins ou des villes voisines, parce que Saint-Raymond, c'est quand même une grande ville. Hein. Donc une petite partie de Saint-Raymond, une petite partie de Perinaldo, une petite partie de Vallebona, une petite partie de Ospedaletti, mais aussi l'île de Bergeggi, qui est une île historique où il y avait un monastère religieux et qui est resté préservé à la nature et qui est en province de Savone. Et plus le territoire du prieuré de l'aumônerie de Saint-Michel à Ventimiglia, comme on a dit, de l'église de Saint-Michel jusqu'à Sospel.
Si j'ai envie d'avoir plus d'infos sur la principauté, si j'ai envie de m'impliquer là-dedans, parce que je trouve le projet un peu insolite, original, comment je peux faire?
Alors, on vous conseille de pouvoir consulter pour tous les francophones le site principautédusabour.fr. Et pour les italophones ou les anglophones, le site officiel seborga.org. Et on est vraiment ravis de pouvoir vous proposer de collaborer avec nous. Donc vous pouvez devenir moine tertiaire. Si vous souhaitez vous engager plus dans la région, vous pouvez devenir à tous les effets moine ou non, si ce sont des femmes, bien évidemment. Ou bien dans le futur, avec des études impliquées au niveau théologique, devenir diacre, prêtre. Peut-être évêque, c'est la volonté de Dieu, peut-être, on ne sait pas. Ou sinon, participer simplement à soutenir l'ordre de caisse de Saint-Martin le Charitable, qui est notre ordre de charité officiel de la principauté de Sabour, donc devenir chevalier ou dame de cet ordre.
Aujourd'hui, donc, on a fêté la Pâque, de notre. Et puis, le prochain rendez-vous, c'est en plein Festival de Cannes, puisque le 18 mai, il va y avoir... Comment est-ce qu'on peut appeler ça ?
Un concert de musique classique à l'honneur d'Ennio Morricone, bien évidemment pour la musique du cinéma.
Je ne savais pas qu'Ennio Morricone faisait la musique classique.
Mais lui faisait la musique des films en réalité. Hein. Mais les jeunes qui vont jouer, ce sont des jeunes très performants de Saint-Raymond. Donc une jeune orchestre d'environ 30 entre garçons et filles, 30 joueurs, qui s'appelle Notes Libres. Et on vous attend, ils ont déjà joué le 6 janvier. On a fêté en fait le Noël selon le calendrier julien. Et on a fêté à l'église protestante de Cannes. On veut montrer que nous sommes œcuméniques pour le vrai sens de la parole, ce qui est aussi prêché par le pontife de Rome. Donc l'objectif, c'est de se réunifier sur l'évangile de Jean, ut unum sint. Nous sommes tous unis sur la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a fêté sa résurrection encore une fois.
Merci pour toutes ces informations.
Merci pour votre opportunité.